France Inter.
Je ne savais juger ni les événements de ma vie, ni mes sentiments, ni ceux des autres. Je ne comprenais pas ce que je vivais, je voyais ce qui me manquait, ce que je ne vivais pas. Je savais que j'avais un problème à régler, je ne savais pas comment le résoudre. Je me demandais si quelque chose pouvait m'arriver qui changerait le cours de mon existence. Je ne me sentais pas vivante, pas en train de vivre, j'étais comme endormie, comme anesthésiée. Christine Angot est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son dernier livre, Le Voyage dans l'Est. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et ça sera Nina Simone, Feeling Good.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Vous êtes comme Nina Simone?
Ben là, je suis obligée. Je suis obligée d'être dans son, d'être avec elle, quoi, parce que oui, forcément.
C'est... Ben, un nouveau jour, une nouvelle vie. Ce livre, n'est-ce pas une renaissance?
Là, le livre sort, donc je ne vis plus dedans, je ne vis plus à l'intérieur, mais je suis heureuse qu'il sorte. Mais de toute façon. Être dans un livre, commencer un livre, vivre dedans. Même si c'est difficile quelquefois de vivre dedans, et ça n'a pas été très facile, ça m'a même été assez difficile de vivre dans celui-là. C'est merveilleux, de toute façon.
Et quand c'est fini, ça l'est moins. Quand il devient public, c'est comme si vous aviez abandonné.
Pas tout à fait, parce que c'est quand même très heureux aussi de sortir un livre. C'est quand même très heureux. Voilà, c'est... Bon, après, il y a toujours des petites anicroches dans ce bonheur.
Mais façon... des réceptions plutôt amères et désenchantées, extrêmement violentes à votre égard.
Il y en a eu, oui, il y en a eu.
Madame du derrière.
Oui, on avait Madame du défend, on a maintenant Madame du derrière. Oui, 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 j'ai eu droit à pas mal de choses dans ce genre-là. À la limite, quand c'est tellement à ce point, enfin quand ça va si loin, et qu'ils ont l'air tellement contents de leur trouvaille, c'est pas sur soi que ça revient. On ne sent pas l'insulte sur soi, parce que on est dépassé par le propos lui-même. On pense à la personne en train de l'écrire, ce propos, en train de le penser. Et c'est plus ça qui étonne. C'est le propos lui-même. Tiens, mais comment ça parvient dans la tête, quoi, ce genre de choses?
Et vous, comment avez-vous commencé à avoir l'idée d'écrire?
Au début?
Oui, tout début.
Au début, eh bien, je crois que je n'y ai pas pensé. Je l'ai fait un jour, comme ça, comme j'aurais pu, m'asseoir justement devant un piano, peut-être si ça avait été ça mon truc, quoi. Hein. Peut-être j'aurais peut-être vu un piano, je me serais dit tiens, je vais m'asseoir et puis voilà. Bon, je me suis pas assise devant un piano, j'ai jamais eu de rapport particulier avec un piano, mais un soir comme ça, j'ai pris une feuille, une autre feuille, et puis non seulement ça m'a plu de le faire, mais c'est surtout, parce que ça c'est quand même très 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 important, je crois. Surtout, je l'ai montré, j'ai montré les deux trois pages que j'avais écrites qui étaient complètement, enfin c'était vraiment pas quelque chose d'extraordinaire, mais je l'ai montré à la personne avec qui j'étais dans la même pièce, qui était la personne avec qui je vivais à ce moment-là, et qui m'a dit, ah, mais c'est tellement bien, etc. Et je crois que ça c'est très important. Enfin, en tout cas, ça l'a été pour moi, parce que justement, comme je n'avais pas je pouvais pas me dire à moi-même, je vais écrire. Je ne pouvais pas. Enfin, en tout cas, je ne m'étais pas dit à moi-même, je vais écrire. J'ai écrit et on m'a dit, enfin, la personne qui vivait avec moi m'a dit, ah, mais c'est vraiment bien. Il faut qu'il y ait un désir. Et mon désir, je pouvais pas l'exprimer moi-même. C'est lui qui l'a tenu comme ça pendant tous les moments où je me disais que j'étais nulle, quoi, en fait.
Ben, vous le dites souvent dans ce livre, que vous étiez nulle.
Oui, oui, c'est vrai. Je pense que...
C'est une histoire de fille, ça. Les garçons, c'est pas souvent qu'ils disent qu'ils sont nuls.
Je suis pas sûre. Je pense qu'ils se disent aussi. Mais...
Ils l'écrivent pas, alors.
Peut-être. Mais, en fait, ce sont des moments... Je pense que quand on a un très fort désir... Moi, j'avais un très, très, très fort désir d'écrire... Si fort que je le combattais en me disant je suis nulle. Voilà, ce désir était si fort que je en fait se dire qu'on est nul, c'est avoir peur d'être nul et c'est avoir peur de souffrir parce que on ne va pas. Vous avez l'interlocuteur, la personne qui vous dit c'est un texte. Vous m'avez envoyé un texte, je lis un texte, ce que vous avez écrit, c'est un texte. C'est très important. C'est ce qu'on appelle l'éditeur, c'est ce qu'on appelle celui qui pourrait être votre éditeur au départ, celui qui vous lit quand personne ne vous lit. C'est tellement important dans toutes les premières années, tellement important.
Dans ce dernier livre, Le Voyage dans l'Est, vous dites aussi que dans votre vie, à certains moments, vous êtes nul.
Je ne sais pas à quel moment précis, je pense que ce sont les moments beaucoup d'écriture, non? Je pense, c'est ça.
Dans votre vie, dans votre manière de vous rendre compte de l'impossibilité de guider votre existence ou d'énoncer des choses que vous aimeriez énoncer.
Ah oui, 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 tout à fait. Sur l'expression, sur la manifestation de mes désirs.
Oui, ce que vous voulez.
Voilà, ce que je désirerais, ce que j'aimerais, que je tiens secret et oui, je vois très bien à quoi vous faites allusion, ce que je tiens secret a commencé vis-à-vis de moi-même. Bon.
Est-ce qu'on connaît son propre désir quand on est une jeune adolescente ?
Eh ben, quand on le combat, en tout cas, encore, on le connaît encore moins. Et c'était mon cas. Je combattais et mon désir d'écriture et mon désir sur le plan amoureux. Oui, je le combattais. C'est la peur. Hein, c'est la peur. C'est la peur que je ne sais pas moi de d'être rejetée.
Vous vouliez être comme tout le monde alors que votre vie n'était pas comme celle de tout le monde.
Mais je ne le savais pas. Je ne savais pas que ma vie n'était pas comme celle de tout le monde. Qu'est-ce que j'en savais ? Je veux dire, pour vous-même, vous êtes comme tout le monde. Il y a une question de lien avec les autres qui existe. J'ai toujours un lien avec d'autres, avec les autres d'une manière générale, que je ressentais et que je ressens. Donc la question de ne pas être comme tout le monde n'a jamais été... je ne me disais pas ça, je ne me suis jamais dit ça. Mais j'étais dans le constat de... Qu'est-ce qui se passe, justement ? Pourquoi, puisque je suis comme tout le monde, pourquoi ça ne se passe pas pour moi comme pour tout le monde ?
Pourtant, dans ce livre, vous décrivez admirablement, donc dans Le Voyage dans l'Est, comment votre père, que vous avez rencontré très tardivement dans votre existence, a commencé, d'ailleurs dès la première rencontre, à avoir des gestes vis-à-vis de vous que vous avez trouvés pour le moins étranges. Rapprochement des corps, puis ensuite baiser sur les lèvres. Et là, il y a une dissociation, c'est sans doute celle de l'écrivain que vous êtes, Christine Angot, entre ce que vous constatez dans l'immédiateté de ce qui vous arrive, et puis ce que vous devez en penser ou ce que vous n'arrivez pas à en penser.
Exactement. Oui. Alors, c'est pas la toute première rencontre, mais c'est 8 jours après. C'est important que je le précise, parce que si ça avait été à la première rencontre, ça aurait été mieux.
Comment ça ?
Ben, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que je n'aurais pas eu 8 jours pour espérer. Je n'aurais pas
espérer
eu...
Espérer être la fille normale d'un père
Exactement.
Normal.
Exactement. Dès la première rencontre, il y aurait eu cette étrangeté, cette particularité, cette bizarrerie, cette agression. Et je me serais dit, ah, c'est pas du tout ce que je pensais, c'est pas du tout le père que je venais voir, qu'est-ce qui se passe ? Or, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est magnifiquement bien passé le premier jour, hein, et le deuxième aussi. Hein. Et donc, j'ai eu 8 jours pour rêver. J'ai eu 8 jours pour m'installer dans l'idée que je vivais un conte de fées, et que je rencontrais mon père, et que ce père était merveilleux. J'ai eu ces huit jours sont très importants. Ce sont les 8 jours que je vais mettre des années et des années à vouloir rejoindre et à ne pas vouloir perdre. Et 8 jours après, en effet, il y a ce qu'on peut appeler au plus faible, cette bizarrerie, cette chose déplacée, cette agression, ce geste incestueux, cette humiliation par le baiser, bon, par la caresse.
Et par vous, votre réaction immédiate, qui est la rétractation, qui est l'éloignement, qui est...
Vous savez, il n'y a rien à faire. Hein. Quand quelqu'un qui est votre père vous embrasse, vous pose sa bouche sur la vôtre, il n'y a rien à faire. Hein. Vous n'avez jamais embrassé personne de votre
vie. Vous avez 13 ans. Hein.
J'ai 13 ans, j'ai jamais embrassé personne de ma vie. Personne ne m'a jamais embrassé sur la bouche. Ça arrive. C'est pas dans les conditions, c'est pas la personne que j'aurais aimé qui le fait. C'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé le premier baiser que je supposais que j'aurais un jour. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout celui de la Belle au Bois Dormant. Pas du tout. C'est être réveillé de la mauvaise manière. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une mauvaise manière, de toute façon. Et donc, bon, vous n'avez qu'est-ce qu'on. Enfin voilà. Vous êtes dans le rêve des 8 jours. Que se passe-t-il? Il y a une telle interrogation sur ce rêve. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut renoncer au rêve? Donc, la rétractation, etc. C'est, de toute façon, il n'y a pas de rétractation à avoir. C'est
l'imposition de son désir et de sa loi à lui.
Oui, c'est l'imposition des lèvres. Ça dure très peu de temps. Ça dure, je sais pas moi, le temps de poser les lèvres et de les retirer. Mais enfin, le signal est quand même très clair et ne me laisse aucun doute sur son sens. Et je comprends ce qui se passe. Mais, parce que j'ai besoin de survivre, je me dis, je me suis peut-être trompée. Après tout. Ou alors, c'est peut-être, voilà, il a fait ça, il va pas le refaire. Je l'espère. Je compte là-dessus. Je compte là-dessus. C'est où je compte là-dessus, où il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de père. C'est les 8 jours de rêve à la poubelle et les 13 ans à entendre parler d'un père qui parle je ne sais combien de langues, qui a aimé ma mère tellement, se sont tellement aimés, que j'ai été un enfant désiré par eux deux, enfin, etc. Donc, voilà. Qu'est-ce qui m'arrive ? En fait, dans le livre, il y a cette phrase, il y a le mot inceste s'est immédiatement formé dans ma tête. J'ai pensé, tiens, ça m'arrive à moi, ça. Alors, entre ça m'arrive à moi, ça, et qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas exactement la même chose. Hein. Je constate que, tiens, ça m'arrive à moi, ça. Parce que ça, c'est un fait. Ça, c'est réel. Je le vis sur le moment. Mais j'ai pas l'espace d'aller plus loin dans ma tête. Je l'ai pas. Je peux pas faire des conclusions. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que si? Tout ça. J'ai pas l'espace. J'ai juste l'espace pour dire au revoir, pour retourner dans la ville où je viens et où j'ai mon école, pour faire ma rentrée en 4e. Voilà. J'ai l'espace pour ça.
Et pour faire comme tout le monde, avec les autres élèves de l'école où vous allez rentrer.
Ce qui est crucial.
Allez y réussir d'ailleurs, oui. Réussir parce que à je être veux comme pas, tout le monde.
Je ne veux pas lâcher ça. Je ne veux pas lâcher le bien-être que j'ai avec mes copines de classe. Je ne veux pas lâcher le bien-être que j'ai à être en classe. Le bonheur que j'ai à étudier à l'école. Je ne veux pas lâcher ça. Je ne veux pas lâcher la vision de ma vie que j'avais jusque-là. Je veux pas la lâcher. Et je mets beaucoup de temps à la lâcher. Et je crois que quand je commence à écrire, au fond, c'est cette vie-là que je commence à lâcher. C'est la vie que je pensais, dont j'avais toujours pensé que ce serait la mienne. Écrire, c'est une sorte de plan B pour moi. Hein ? C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut faire, ce qu'on rêve de faire. C'est le deuxième rêve. C'est le rêve inattendu. Le rêve de base, c'est-à-dire de bien réussir à l'école, d'avoir une vie, de faire plein de choses et tout ça, j'ai mis beaucoup de temps à y renoncer, beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps, pas tellement à y renoncer, j'ai mis surtout beaucoup de temps à renoncer, à comprendre que j'allais pas y arriver. J'avais tout pour y arriver, et puis à un moment, je vois que j'y arrive pas. Donc à un moment, il faut bien que j'enregistre que non, je ne vais pas y arriver, que je n'y arrive pas. Et à ce moment-là, il y a une espèce de deuxième rêve que je n'avais pas imaginé, qui apparaît sous mes doigts et sur un papier, et qui est que j'écris. Et c'est tellement inattendu que j'ai mis beaucoup de temps à y croire.
Et vous n'écrivez pas du tout sur ce qui vous est arrivé?
Non.
Au début?
Non, non. Non, non.
Il y a l'idée qui existe déjà dans vos livres précédents, Christine Angot, qui je pense est très importante pour comprendre existentiellement, intérieurement, psychiquement, la situation, comme dirait Jean-Paul Sartre, parce que votre livre est très existentialiste aussi. Il y a cette idée de déclassement social de votre père, enfin de votre mère par rapport à votre père. Votre père parle plusieurs langues, il fait un métier important. Votre mère vous élève toute seule dans une situation matérielle beaucoup moins
confortable
et protégée que votre mère, etc. Et il y a aussi l'idée d'un déclassement de votre existence. Vous êtes une déclassée sociale, vous le savez objectivement, mais vous êtes aussi intelligente que les autres et vous réussissez très bien dans vos études et vous êtes une bonne élève et vous aimez apprendre. Donc vous êtes une fille comme tout le monde. Mais il y a le déclassement aussi peut-être de ce qui vous arrive avec votre père et ça vous ne voulez pas du tout en entendre parler, ni même en parler.
J'en suis parfaitement consciente à l'instant même où ça se passe, hein, de ça.
Oui,
de
mais vous le gardez pour vous.
Bah, oui, justement.
Corps fermé, bouche scellée.
Justement. Je veux dire, j'ai jamais vu quelqu'un se vanter d'un déclassement existentiel. Je veux dire, un déclassement social, on peut, je ne dis pas s'en vanter, mais en tout cas, le partager éventuellement, voilà, avec des gens qui peuvent le... enfin oui, ça se partage. Il y a même des lieux de ce partage qui peut comporter un certain, je veux dire, qui ça peut créer une certaine, je sais pas, une certaine, ça peut se vivre malgré tout. Hein. Ça peut se vivre. Il y a des manières de le vivre, de le parler, de se dire qu'il y a d'autres choses qu'on peut compenser, qu'il y a d'autres horizons. Un déclassement social n'implique pas une mort sociale. Enfin, en tout cas, pas dans un premier temps. Enfin, qu'est-ce que c'est un déclassement social? C'est peut-être avoir moins d'argent ou que certains, ou en avoir peu. C'est l'argent, c'est l'avoir. C'est pas l'être.
Mais votre histoire s'inscrit dans une temporalité où on n'osait pas énoncer. Alors qu'aujourd'hui, dans les conséquences de MeToo, il y a eu la possibilité de l'entraide par la parole. Et là, vous, dans ce dernier livre, il y a plusieurs fois l'idée, si je vous ai bien comprise, plusieurs fois l'idée que peut-être vous allez en parler à votre mère.
Mmh, bien sûr.
Mais vous ne le faites pas.
Parce que, pour plusieurs raisons, parce que je n'y arrive pas, d'abord. Parce que moi, je trouve ça toujours assez étrange quand on dit il faut parler comme si c'était une très bonne idée qui était venue avec en 2017 en octobre 2017 avec MeToo que c'est ça il faut en parler, ah quelle bonne idée, voilà, ok, il faut à qui, comment, avec quel mot, avec quelle phrase, avec quelle voix, avec quelle respiration, à qui, à quel moment de la journée, et pour produire quel type de relation. Si c'est pour produire une relation où on va me prendre sous son aile et me dire « je comprends, t'inquiète pas », avec une voix rassurante et douce, franchement, je vais me débrouiller toute seule. Parce que la voix rassurante et douce, c'est pas maintenant qu'il fallait qu'elle soit là. La voix rassurante et douce, il fallait qu'elle s'exprime au moment où on est dans le trou pour vous montrer que vous pouvez, que vous avez, que vous voyez, enfin qu'il y a quelque chose, quoi. Voilà. En fait, on veut pas une voix rassurante et douce. On veut une protection. La voix rassurante et douce est le contraire d'une protection. Donc, quelqu'un qui vient vous consoler. On n'a pas besoin d'être consolé, on a besoin d'être protégé et c'est trop tard. Donc, mais c'est pas grave, mais simplement, il faut pas me dire qu'on me console, il faut me dire qu'on regrette que ce soit trop tard, qu'on regrette de ne pas avoir compris et qu'on aimerait comprendre et éventuellement qu'on pose des questions. C'est-à-dire, faut inverser, c'est-à-dire faut demander à la personne qui a eu un problème de vous aider à comprendre. Quelqu'un, vous avez eu un problème si grave, hein, et quelqu'un vient vous dire « je vais vous aider ». Toi, tu vas m'aider.
Toi, personne ne vous a aidé, Christine.
Toi, tu vas m'aider, mais tu ne vas pas m'aider. Moi, je peux t'aider à comprendre ce qui s'est passé, si tu veux, parce que ça concerne tout le monde, ça te concerne aussi, et ton aveuglement te concerne.
Hein. Et donc, pourquoi personne ne vous a aidé après? Alors que vous l'avez dit.
Hmm? je pense qu'il y a plusieurs raisons, explications qu'on peut avancer. Déjà, je pense qu'il y a une espèce de... Vous savez, il s'agit d'un... Tout ça est quand même très lié au pouvoir des uns et des autres. La personne à qui vous le dites, la personne à qui vous dites « tu sais, lui », qui est un personnage puissant, il fait ça. Et j'en peux plus. Bon. Vous lui dites, au fond, tu sais, voilà, je t'ai dit jusque-là que ça se passait très bien et que je l'aimais, mais au fond, c'est pas vrai. Tu vois ? En fait, je suis mal, je suis très mal. Et ça se passe pas du tout comme je te dis que ça se passe. C'est-à-dire, ça ne se passe pas bien. Ça se passe mal. Bon, ok. Donc, la personne hérite d'un nouveau pouvoir. La personne pensait que le pouvoir était dans les mains de la personne puissante, du père. Bon, tout d'un coup, elle se rend compte que non. Et que c'est elle, finalement, à qui on se confie et qui, finalement, récupère cette part de pouvoir. C'est rare que quelqu'un qui vous donnait un pouvoir, par la confidence, par exemple, ne le garde pas pour lui. Hein. Le distribue avec la police, avec la justice, avec, voyez, avec l'ensemble de la société. C'est très très rare. Donc il y a quelque chose qui reste comme ça entre nous, hein, comme si ça pouvait nous lier. Mais c'est ce qu'il faut, c'est qu'est-ce que c'est parler, hein? Il faut parler, d'accord. Mais bon, comme vous l'avez fait remarquer, il y a plein de moments où je parle, plein de moments.
D'ailleurs, il y a plusieurs Christine Angot qui parlent à l'intérieur de ce livre.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est quand je parle, qu'est-ce qu'on me répond? Qu'est-ce qu'on me dit? On dit, les
rien.
Victimes d'inceste ne parlent pas. Que disent les autres? Que disent les autres? Ont-ils quelque chose à dire?
Rien.
Ont-ils des questions à poser? Non, ils n'ont pas de questions à poser parce qu'ils pensent savoir. Donc il y a toute une espèce de déséquilibre à ce moment-là qui s'opère, où...
Ils pensent savoir ce qui vous est arrivé alors que c'est impensable.
Voilà. Voilà. Et puis à partir du moment où ils sont là, ils pensent que tout va bien, c'est fini. Voilà, ça va aller très bien. Parce qu'on est là, parce qu'on t'offre la vie paisible dont nous on jouit. Bon, alors ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième point aussi.
Parce qu'on t'aime.
Voilà. Donc, l'argument de l'amour, on en connaît les limites. À partir du moment où c'est un argument et que ça commence par « parce que », ça ne va pas. L'amour, c'est pas un truc « parce que ». Donc... Et puis il y a aussi, alors ça concerne surtout la société, enfin, et je crois qu'il y a aussi une question libidinale là-dedans, hein. C'est-à-dire, il y a un bénéfice libidinal quand même, d'apprendre quelque chose de cet ordre-là, c'est un peu sale, enfin même très sale, c'est comme si on crie d'horreur, on est, ça me fait horreur. Vous savez qu'il y a des gens qui payent pour aller voir des films d'horreur. Donc ça veut dire que ça doit y avoir un certain plaisir à éprouver de l'horreur, je suppose. Donc il y a tout ça qui fait que ça reste, y compris après MeToo, qui est un signal de vigilance. Et de principe, hein, il y a un principe qui est posé avec MeToo, c'est-à-dire non, ça passe pas, non, ça passe plus, oui, c'est fini. Bon, il y a ce signal-là déterminant, bien sûr, mais ensuite, dans la manière dont les choses peuvent être je ne sais pas, moi, prise en charge par les manières de parler, j'insiste avec le pluriel, parce que je suis quand même très gênée par le fait que Ce que je vois, moi, surtout, c'est qu'il y a une sorte de... Au fond, les victimes devraient parler les unes après les autres, dire ce qu'elles, voilà, ce qu'elles ont vécu. Mais l'analyse de ce qui s'est passé, comme si cette analyse ne devait pas relever des victimes elles-mêmes, hein, comme si elles étaient, comment dire, limitées à la description, au rapport. Au procès-verbal, est-ce que vous avez déjà porté plainte, Laure, dans un commissariat? Quand vous allez dans un commissariat, vous portez plainte, vous relisez vos propos, c'est quelqu'un d'autre qui les écrit. Ben là, c'est pareil. C'est jamais écrit par la victime. Une victime n'a pas droit à écrire. Elle a droit à parler autant qu'elle veut. Autant qu'elle veut. On lui donnera tous les micros nécessaires. Écrire, c'est un autre problème.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Christine Angot, Alain Chamfort, Micro Sillon.
Passe ton doigt sur les micro-sillons autour de mes yeux, le long de mon front. Les entends-tu bien, toutes les chansons que le temps a gravées au plus profond? Les entends-tu bien, toutes les chansons de rides heureuses en fines pattes d'oie? Il y a des berceuses sous tes doigts. Balade amoureuse, ineffable joie, que les années creusent malgré moi. Tu verras avec l'âge, tout est sur le visage. Passe ton doigt sur les micro-sillons autour de mes yeux, le long de mon front. Les aimeras-tu, toutes les chansons que le temps a gravées au plus profond? Les aimeras-tu, toutes les chansons sur ma peau vinyle? Tu suivras le lit de tristes et fragiles mélodies. Des nuits difficiles, des blues infinis, traces indélébiles de la vie. La poussière, les rayures, tout est sur la figure. Passe ton doigt sur les micro-sillons autour de mes yeux, le long de mon front. T'en souviendras-tu, toutes les chansons que le temps a gravées au plus profond? T'en souviendras-tu, toutes les chansons? Toutes les chansons.
Il y a une architecture exceptionnelle à l'intérieur de l'écriture de votre dernier texte, Christine Angot, Le voyage dans l'Est. Vous y faites cohabiter différentes temporalités. Le temps d'avant, le temps de pendant, qui est très long. Pendant ce temps du pendant, vous allez continuer d'autres existences comme si de rien n'était. Puis le temps d'après, puis le temps de l'après-après, pour aboutir enfin à celui d'aujourd'hui. Vous y adjoignez à l'intérieur de ces temporalités différents états existentiels, un peu comme dans un livre de philosophie de Merleau-Ponty. Et vous êtes scrupuleusement attentive par les mots que vous allez choisir à nous, lectrices et lecteurs, nous faire comprendre de l'intérieur ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est par les mots que vous avez utilisés dans ce texte que vous arrivez à nous le communiquer. Comment s'est déplié ce livre? Je crois qu'à un moment, vous parlez de puzzle. Et vous dites, c'est comme un puzzle qu'il faut que j'assemble. Et moi, je pensais aussi à cette expression qu'utilisent certains auteurs des châteaux de la mémoire. Ils disent que la mémoire est composée de différents châteaux. Comment avez-vous déconstruit ces châteaux et comment les avez-vous rassemblés?
Il y a eu plein de moments. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je voyais à peu près, pas exactement, mais je voyais à peu près par où je voulais passer. J'ai vu où je voulais, jusqu'où je voulais aller. Je connaissais pas la fin précise. Mais j'avais une direction quand même, avec une scène en particulier, vers laquelle je voulais aller. Mais par où je passe, voilà, c'est ça. Et ça, à chaque moment, à aucun moment, ça n'a été garanti. Donc ça, je suis restée à toutes les étapes dans l'interrogation de si j'allais y arriver, au fond, hein, à passer de là à là, à passer de ce temps-là à cet autre-là, et comment, hein, comment, c'est-à-dire la continuité dans ce qui semble discontinu, et qui l'est, en réalité. Hein. C'est vrai que la vie qu'on vit n'est pas continue. Elle est continue parce que nous, parce que c'est nous. La continuité, c'est nous. C'est nous qui la traversons et c'est tout. C'est voilà, c'est la seule continuité. Le reste, c'est n'importe quoi. Et il y a que nous qui pouvons comme ça sentir une continuité à travers les choses qui se passent en dehors de nous et celles que nous traversons en nous-mêmes, physiquement, émotionnellement, etc. Et donc je ne voyais pas quoi hein, du tout hein. Mais voilà, donc à chaque fois il y a ça va pas marcher, je vais pas y arriver, donc l'essai de faire autrement, et puis finalement il y a un chemin, il y a quelque chose, mais il faut essayer, c'est tout ce que je peux dire. Donc je peux pas dire comment j'ai fait, je peux juste dire j'ai essayé comme ça, j'ai essayé comme ça. Le seul truc vraiment en fait, c'est quand ça passe pas d'une manière, faut essayer d'une autre. C'est tout. Et je sais pas. C'est sûr qu'il y a une grande résistance à vraiment tracer ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit c'est abstrait. Or les mots c'est concret. Les mots sont limités. Les signes de ponctuation aussi, hein. Donc c'est pas des élastiques comme ça avec quoi on fait à peu près ce qu'on veut, non. Donc il faut faire passer ce qu'on voit, qui est très abstrait, par un entonnoir de mots et de pages, parce qu'il y a aussi la mise en page des pages blanches. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quoi? Bon, finalement. C'est ça. Et alors donc, la seule chose, c'est le faire, essayer, et chaque fois, regarder. Est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que ce qui est produit, c'est ça? Est-ce que je le reconnais comme étant réel, ou est-ce que je ne le reconnais pas comme étant réel ?
Le dernier tiers de votre livre s'inscrit dans l'actualité. Je voudrais vous faire écouter un document, c'est un reportage qui a été diffusé sur TF1 le 24 mars 2021. C'est le reportage de Betty Manetchez. Vous en parlez à l'intérieur de votre livre. Betty Manetchez va témoigner à propos de son père et de sa sœur, Virginie. C'est ce qu'on a appelé dans les médias, mais aussi dans les cours de tribunaux, soi-disant un inceste heureux. On écoute.
Votre père est mis en examen pour viol sur ses filles, votre mère pour complicité. Ils sont placés en détention provisoire en attendant le procès. Que ressentez-vous ?
C'est compliqué parce que j'ai perdu ma sœur en dénonçant mes parents. Ma sœur m'a pas pardonné ma dénonciation parce qu'on lui a retiré son bébé. On l'a mis en garde à vue avec son bébé et c'était ça, le moyen de pression parce que Virginie, elle niait tout.
Et elle vous supplie ?
Elle me supplie, oui, de revenir sur ma déclaration.
En 2011, puis en appel en 2012, vos parents en comparaissent pour viol et violence sur leurs enfants. Devant la cour d'assises, que dit votre père ?
Que Virginie l'aimait et que moi, il m'aimait pas.
Virginie va prendre la parole. Que dit-elle ?
Qu'elle vit avec l'homme qu'elle aime, Denis, et son enfant.
Elle dit qu'elle l'aime.
Ah oui, elle dit qu'elle l'aime.
Et en conclusion du procès, que va dire l'expert psychiatre ?
Il terminera par dire qu'il y a peut-être des incestes heureux. Ce que lui fera répéter l'avocat de mon père. Et ce qui clôturera le procès. Les incestes heureux.
Quel est le verdict ?
Ils sont condamnés à 5 ans, donc 2 prisons fermes qu'ils ont fait en préventive. Donc ils sont libres. Là, ils ont le droit de vivre entre père, fille et leur enfant, c'est normal.
L'histoire a viré au drame. 2 ans plus tard, en septembre 2014, Virginie s'enfuit avec son fils. Pourquoi elle part ?
Parce que son fils sait d'où il vient. Elle explique. Elle veut partir, elle veut vivre dans la vérité avec son enfant, donc elle lui explique.
Elle se réfugie chez son patron, dans un garage auto où elle travaille, comme mécanicienne. Mais votre père la recherche.
Oui. Il la retrouve au garage. Il tire sur le patron, qui est la première personne qui est sur son chemin. Et ensuite, il a tiré 2 balles à ma sœur, comme il avait toujours dit qu'un jour, ce serait comme ça et comme ça. Notre enfance, il a dit, ça se fermera comme ça. Il a tué ma sœur sur son tatouage. Parce qu'elle lui avait fait un tatouage quand il était en prison. Denis pour la vie. Et elle l'avait effacé. Et il lui a tiré une balle dans la tempe.
De cette histoire tragique, vous parlez, Christine Angot, à l'intérieur du dernier tiers de votre texte. Et là, on sent que dans la langue qui est la vôtre, il y a une sorte d'accélération dans la mise en accusation par la langue que vous utilisez. Parce qu'il y a des choses, vous dites, qui sont pas acceptables. On peut pas parler d'inceste heureux.
Ni d'inceste consenti.
Ni d'inceste consenti. Ni d'âge du consentement, d'ailleurs. D'âge limite.
Je prends un petit temps de silence parce qu'en fait, y a certaines choses, je me suis rendu compte. La colère, en fait, c'est une émotion. On est d'accord. Bon. On n'aime pas montrer ses émotions. On se sent fragile quand on montre ses émotions. J'ai une grande colère en moi.
Ça se lit.
Oui. À propos de cette affaire, mais ce que représente cette affaire, c'est-à-dire cette situation, que ce soit possible que des gens des institutions, des gens au sein d'institutions puissent élaborer ce concept, reconnaître ce concept d'inceste consenti, comme si c'était possible. Il faut que ces gens, il faut leur expliquer ce que c'est pas, je ne les accuse pas en tant que personne, mais je les accuse en tant qu'institution. En tant que personne, il suffit d'expliquer non, ce n'est pas possible, ça n'existe pas, l'inceste consenti. quand j'entends la voix de cette jeune femme, Betty, qui redit ces mots, qui a eu le courage d'aller contre le chantage à l'amour, l'amour pour le bébé, l'amour pour celui qu'elle appelle Denis, au lieu de dire mon père, hein, comme si ils avaient réussi à dire que oui, on pouvait l'appeler Denis, quoi. On pouvait l'appeler Denis, sa fille peut l'appeler Denis. C'est comme ça, quoi. Bon. Il y a une très grande tristesse, il y a une très grande souffrance dans cette voix. Et l'analyse est portée par les institutions. Et cette analyse est fausse. Cette analyse est fausse. Et donc le courage de la personne, c'est pour ça, moi je veux bien qu'on nous dise « il faut parler ». Mais quand les gens parlent, ce qui a été le cas de Betty Manechez, hein, alors, à ce moment-là, c'est d'une violence incroyable de se retrouver avec une analyse telle. Elle a le courage de parler, elle va contre le discours qui lui est servi à ce moment-là, par son père, par sa sœur, sous l'argument « il y a un bébé ». Ah bah oui, il y a un bébé, oh, d'ailleurs ça va être formidable pour lui. Bon. Et voilà comment on analyse les choses, par un inceste consenti. Pourquoi ? Parce que derrière tout ça, il y a le père qui est en garde à vue, qui choisit lui-même l'avocat, hein, Éric Dupond-Moretti, choisit. Il choisit lui-même l'avocat.
Qui n'était pas encore ministre de la Justice.
Qui n'était pas encore ministre, qui, comme tout avocat, se met au service, pas vraiment de la victime, malheureusement, mais en tout cas de son client. Là, le client, bah, c'est celui qui paye. C'est, voilà. Et qui comprend, parce qu'un avocat, c'est ça, c'est quelqu'un qui arrive à comprendre le chemin pris par quelqu'un qui fait les pires choses. C'est ça son truc. Voilà, c'est ça son talent, on pourrait dire. Très bien. Mettons ça de côté, il est du côté du père. Du père qui essaye de faire dire à la fille avec qui il vit et dont il a un enfant qu'elle l'aime et que c'est formidable. Bon, quelques années plus tard, il la tue. Donc ça devrait quand même alerter les gens sur la valeur de ce mot « amour », sur sa réversibilité, sur sa capacité d'être un argument d'autorité, et non pas une espèce de valeur en soi. Hein. L'amour peut-être est un argument d'autorité dans certains cas. Voilà. Donc là, le courage de Betty Manechez est franchement... Je ne sais pas si on se rend compte, quoi, hein, parce que là, elle pleure à moitié, on a l'impression d'une fille faible. Je pense que c'est une fille très forte. C'est ça que je voudrais qu'on restitue aux personnes. C'est leur force. Mais leur force, sa force, évidemment, là, a été complètement niée par toute cette bande de magistrats. Et il y a un petit détail ensuite. Un des magistrats va voir le père et lui dit « Soyez heureux, monsieur !» Est-ce que ça, c'est possible ? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Est-ce qu'on veut vivre là, dans ce... C'est ça ? Est-ce qu'on veut vivre dans ce monde-là ? On veut vivre dans ce monde-là ? Mais non ! On ne veut pas vivre dans ce monde-là. Il y en a qui veulent, très peu. Il y en a très peu qui veulent vivre dans ce monde-là. Il y en a, mais il y en a très peu.
Ben, l'émission s'arrête, hein, Christine. Je vous remercie infiniment.
Merci, Laure.
Le texte s'intitule « Le voyage dans l'Est » et je vous conseille non seulement de le lire, mais de le relire. Et il vient de paraître aux éditions Flammarion. J'étais C'est avec la voix de Jane Birkin que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Sofiane, Sofiane Aktib, qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanessian, ainsi qu'à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, et bien sûr à Lilian Alhomme, qui comme chaque soir a réalisé cette émission.